Oui, c'est bien moi. Te portes-tu bien, mon frère, ma sœur? Vous avez peur maintenant de mes questions, hein? Mais j'ai toujours des questions. Et une ce matin, es-tu à ta place? Ah oui, si vous êtes ici là ce matin, vous êtes à votre place. Mais d'une manière générale, pose-toi la question, est-ce que je suis bien à ma place, là où Dieu veut que je sois? Vous savez, comme moi, par le passé ou pendant la période de Noël, des festivités, on a eu l'occasion de nous inviter. Vous inviter. Vous avez répondu positivement, n'est-ce pas? Mais on est allé juste pour la forme. Des fois, on se dit, à 23h, je rentre chez moi, hein. Parce que ce n'est pas trop mon milieu. Et puis on se dit, à minuit, je suis encore là. À 3h du matin, je suis encore là. Et puis je dis, qu'est-ce que je fais là? Ce n'est pas ma place. Vous êtes déjà arrivé. Au travail, à l'école, dans toutes sortes d'invitations, on se dit, mais bon, est-ce que je suis bien là où il faut que je sois? Comprenons le sens de la question, parce qu'en tant que chrétien, il nous arrive de nous engager dans des milieux et puis un peu comme Dieu disait à Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Alors que tu dois être là, Élie. Et par trois fois, Dieu dit à Élie, le prophète, hein, qu'est-ce que tu fais ici? Souvent, nous nous disons, mais qu'est-ce que je fais là? Mais je n'arrive pas à m'en sortir parce que je suis comme figé. Suis-je à la bonne place? Et c'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans compromis dans ce monde, ici-bas. On a des familles, on a des amis, on a des collègues, et puis on nous invite, et puis on se dit, ouais, mais à chaque fois je dis non, c'est pas bien. Donc on fait l'effort, tout en sachant que c'est pas mon milieu. Chaque début d'année, on se fixe des objectifs, on prend des décisions, on se fixe des défis à relever. En Angleterre, aux États-Unis, on parle de challenge, mais on n'arrive jamais au bout, pourquoi? Je commence bien l'année, et puis, en chemin, je m'arrête. Est-ce qu'un manque de temps? Ou bien un manque de volonté. Je vous invite à lire et à survoler, parce que là, on va aller très vite avec l'histoire de Lot. Connaissez-vous Lot? Alors, certains endroits, on dit Lot, mais c'est Lot. Je prononce Lot comme ça. Fin du chapitre 11 de Genèse, pardon. On connaît souvent Lot, on sait qu'il est le neveu d'Abraham, mais on ne sait pas qu'il est le petit-fils de Terah. Terah, c'était le papa d'Abraham. Vous savez où se trouve Genèse, au moins, que j'entends encore les feuilles tourner. C'est bon? Genèse 11:31. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. Haran, selon la tradition, c'est une grande ville commerciale. À partir du verset 12, chapitre 12, verset 1, Dieu demande à Abraham de quitter Ur en Chaldée pour aller ailleurs. Et nous voyons Abraham partir avec son neveu Lot. J'ai envie de dire que Lot avait beaucoup de chance. Mais à chaque fois, il est attaché, soit au grand-père, soit à l'oncle. on aurait pu remettre dans une maison, comment dire, de cas social, et puis on se débarrasse parce que c'est un poids lourd. Mais il est attaché. Et 4, Dieu dit à Abraham, chapitre 12, « Va-t'en de ton pays, de la patrie, de ta maison, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » Dieu fait alliance avec Abraham. Et Abraham partit, verset 4, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Bien-aimés, quand Dieu nous appelle, ne nous chargeons pas de X, Y, Z. Allons avec moi. Dieu t'a appelé toi. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je veux dire, parce que vous allez comprendre plus tard que Lot n'a pas toujours suivi la voie de son tonton. Et quand Dieu t'appelle à une mission, il t'a appelé toi. Abraham va partir, et il va partir avec Lot. Au chapitre 13, verset 5, on va vite, hein, j'ai dit, hein? Il y a dispute. Alors, ce qui était une bonne chose pour Lot devient complication pour Abraham par la suite. Parce que Lot, petit, devient grand. Et il a des bergers, il a un cheptel. Il a peut-être une famille, mais on ne sait pas. Mais il y a dispute, comme dans beaucoup de familles de nos jours, n'est-ce pas? Si on n'a pas chez vous, il y en aura. Mais il y a tôt ou tard une friction. Et Lot dit, écoute, je ne vais pas avoir de problème, on va se séparer. Chapitre 13, à partir du verset 5. Et à partir du verset 12, toujours du chapitre 13, Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes, où? En direction, ça dépend des versions, en direction de Sodome. Et il est dit au verset suivant, « Or, les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. » Direction de Sodome, les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs. Il me dit, « Mais on est tous pécheurs. » Et vous savez, vous passez de quartier en quartier, on dit, ah, les gens-là, ils sont mauvais. Et comment étaient ceux qui, là où tu venais? Ils étaient aussi mauvais. Donc, c'est partout, on est mauvais. Chapitre 14, je suis ouvert. Hein? Sodome et Gomorre étaient deux villes, j'ai envie de dire, qui s'imbriquaient l'une dans l'autre. Et par leur proximité, et certainement qu'il y avait un business commun. Parce qu'on parle de Sodome et on parle de Gomorre. Deux villes. Et au verset 21, on voit le roi de Sodome qui apparaît à Abraham. Vous allez chercher l'explication parce que je ne l'ai pas. Il dit, donne-moi les personnes, verset 21, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni une bride de sandales pour que tu ne puisses pas dire j'ai enrichi Abraham. L'heure de dire, pas de compromis, pas de sous-table, pas de pot de vin, rien, niet, nada. Pas de compromis. Et ça aussi, nous devons apprendre à dire non. Est-ce qu'il nous arrive facilement de dire non? Oui, je ne veux pas le blesser, et puis il me regarde, et puis on me connaît, et puis j'ai déjà parlé de l'évangile, donc si je dis non, niet, c'est niet. Pas de compromis. Allô? C'est pas facile. Mais Abraham dit au roi de Sodome, il n'est pas question. Il prend Dieu à témoin, il veut rester attaché à l'éternel Dieu, verset 22. Et cela devrait être pour nous un leitmotiv, quelque chose qui nous galvanise tous les jours, rester attaché à Dieu, quelles que soient les circonstances. Amen. On découvre subitement que Lot, qui s'est installé en direction de Sodome, habite désormais Sodome. Le temps passé. Et que même il s'est marié et qu'il a des enfants en âge d'être donné aussi en mariage. Nous arrivons progressivement dans ce que j'appelle le nanan même, le cœur même de la situation. Chapitre 18, versets 1 à 5. L'Éternel apparut à Abraham, qui était au chem de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il prenait refrain. Il leva les yeux, Abraham leva les yeux et regarda, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Verset 4, qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous sous cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Ils répondirent, oui, fais comme tu as dit. Observez la réponse ici, oui, un oui franc d'Abraham. Versets 16 à 22, l'Éternel quand même averti, parce qu'il n'était pas venu pour rien chez Abraham. Observez que l'Éternel est présent là. Hein? Et au verset 16, il fait comprendre, au verset 16 à 22, qu'il va détruire Sodome et Gomorre. Dieu ne prend aucune décision, il n'arrête aucune décision sans avertir ses prophètes. C'est ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 46. Il avance, il annonce longtemps à l'avance ce qu'il va faire. Et Abraham, c'est lui qui l'a choisi, c'est par endroit, il dit, c'est mon ami. Je l'ai choisi comme Dieu nous a choisi, bien avant la fondation du monde. Et Dieu, en Jésus-Christ, dit, je vous ai appelé ami. Donc Dieu nous avertit de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va détruire cette terre. Vous êtes au courant? D'accord. Plus par l'eau, mais par le feu. Et ça, on ne doit pas le garder caché, en réserve. Et Dieu avertit Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorre. Pourquoi il avertit Abraham? Parce que Lot s'y trouve, Lot son neveu, et il veut préserver Lot. Je suppose que, puisque c'était la coutume à l'époque chez les Juifs, génération après génération, la transmission était faite. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Transmettre ce que Dieu fait et qui est Dieu. Vous connaissez Proverbes, chapitre 22, verset 6. Chaque parent devait connaître ce verset. Allô? Assez, instruit l'enfant selon. C'est la tâche de la monitrice de l'école du dimanche ou bien du parent? D'accord, merci. N'attendez pas toujours sur l'église, que l'église c'est nous. Et dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 7, toujours dans cet esprit de transmission, il dit: écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est. 1. Tu enseigneras, tu inculqueras à tes enfants. Et donc Abraham avait certainement transmis à Lot qui était Dieu. Dieu avait vu Abraham grandir, il avait vu Abraham prospérer, il avait vu les bénédictions que l'Éternel avait procurées à Abraham. Il en était bénéficiaire lui-même. Nous éduquons nos enfants, ils grandissent à l'école du dimanche, ils deviennent jeunes hommes, jeunes filles, et puis comme nous aussi, nous avons glissé, eh bien, ils ont glissé. Pas vrai? Mais oui, il y a des choses que nos enfants font que nous ne sommes pas au courant. On découvre après, oui, j'ai baigné là-dedans, mais c'est maintenant que je te dis ça, maman. Hein? Hein? Si tu savais toutes les bêtises que j'ai faites. Qui n'en a pas fait? Nous ne sommes pas là pour juger l'autre. Hein? Mais l'autre a établi sa demeure dans Sodome et Gomorre. Et il est dit, Sodome et Gomorre, les gens y habitaient étaient fort mauvais. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ton seul objectif, c'est de l'amener à Christ? Ou bien c'est mon ami, il n'est pas méchant. Hein? Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les parents pleurent de plus en plus leurs enfants. J'ai envie de dire, mort né trop tôt. Ils les voient grandir. Ils ne les voient pas prendre position pour Christ. Ils les voient partir en vrille. Et puis, hélas, mourir prématurément. Une douleur pour les mamans, pour les papas aussi. Mais Abraham n'a pas, j'ai envie de dire, veillé à avertir peut-être l'autre, ou bien il a averti, mais l'autre a fait à sa tête. Et quand vous regardez la suite du texte, quand les hommes arrivent, parce que Dieu n'est plus là, l'Éternel n'est plus là, arrive à Sodome et Gomorre, chapitre 19. Qui reçoit les deux hommes, les deux anges? Lot. Où est Lot? Assis aux portes. Qui c'est qui est assis aux portes? Les nobles. Ceux qui avaient une responsabilité. Ça veut dire que Lot a acquis des responsabilités à Sodome. Et il est dit que le cri, si on retourne au chapitre 14, je crois, ou 15, ce que les gens de Sodome font, le cri est monté jusqu'à Dieu. Dieu voit, Dieu sait, Dieu entend quand ses enfants subissent l'injustice ici-bas. Allô? Dieu voit, Dieu sait, Dieu entend. Il agit en son temps. C'est lui qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et que son temps n'est pas notre temps. Le cri monte jusqu'à Dieu qui ne peut tolérer le mal. Dieu s'est bien vengé des Égyptiens, hein? 400 ans après. Et des Babyloniens ou des Chaldéens. Tous ceux que Dieu lui-même avait appelés pour martyriser Israël, son peuple. Dieu s'est vengé après. Dieu est Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de sa part? On va retourner juste dans chapitre 18, à partir du verset 23 à 33. Abraham va entrer dans une longue plaidoirie avec Dieu pour sauver à Sodome ne serait-ce que 10 justes. Et si tu trouves 10, et si tu trouves 40, et si tu trouves 30, et si tu trouves 50, Dieu dit ok. Dans sa grande miséricorde, Dieu est toujours prêt à faire grâce. N'est-ce pas? Est-ce qu'il faut pousser le bouchon quand même jusqu'au bout? Pour que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est pas une raison. Mais tous nous passons par là, n'est-ce pas? Dieu veut nous épargner. Et il nous invite à réfléchir. N'est-ce pas le sens de nos prières, nous parents, quand nous prions pour nos enfants, quand nous prions pour nos amis, quand nous prions pour nos collègues de travail, que Dieu les épargne? Non? Autant de prières que nous pouvons faire monter avec persévérance, continuons à le faire pour nos enfants. Dieu entend. Dieu voit, Dieu sait. Dieu a déjà promis. Dieu n'agit pas quand nous voulons. Et souvent on dit, ton enfant n'est pas encore converti. Mais Dieu lui a donné son rendez-vous à lui. Et son rendez-vous à lui n'est pas ton rendez-vous à toi. Vous me suivez? Alors, répondez, Dieu lui a déjà donné son rendez-vous. Comme ça, vous avez tout laissé entre les mains de Dieu qui est souverain et miséricordieux. Il sait. On voit grandir les enfants, on ne sait pas ce qu'ils font, mais on dit, Seigneur, aie pitié, Seigneur, il est tellement gentil. Autrement, on dit, Seigneur, il est tellement méchant qu'il mérite d'être sauvé. De quel côté on est? Dieu sait, Dieu voit. Mais ne cessons pas de prier avec persévérance. Le chapitre 19, je dis, est intéressant à plus d'un titre. Et c'est là que nous entrons dans le non, dans le cœur même. Sodome est mauvais par les habitants qui sont là. Et Lot, il est comme assis comme un notable aux portes de Sodome. Et c'est lui qui accueille les deux anges. Alors, où le téléphone arabe a bien fonctionné, on a déjà appelé Lot pour dire, il y a deux gars qui arrivent là. Prépare-toi à les recevoir. Ou bien Lot voulait se démarquer de ce qui se passait dans la ville et donc il avait ses responsabilités là pour un peu, parce qu'on peut faire semblant des fois. Hein. On dit, je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis là, mais je ne participe pas. Mais mes oreilles entendent. Et mes deux pieds battent le rythme, la musique. Mais je suis là sans être là. Vous me suivez? Mais oui. L'autre est assis et il n'interdit pas aux hommes d'entrer dans Sodome. Il ne les conseille pas non plus. Il sait. Il dit, ici, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un endroit pour rester. Il dit, venez chez moi. Et il les supplie. Lisez le texte. Par trois fois, il supplie les hommes de rentrer chez lui. N'allez pas dans cette ville. La nuit, tous les chats sont gris. Vous allez laisser la vie. Et vous avez vu la réponse des deux hommes? Niet. On ne va pas rentrer chez toi. On ne fait que passer. Contrairement à chez Abraham, ils disent oui. Oui, nous allons rester. Et nous allons manger. Là, ils disent niet. Mais sur l'insistance de l'autre, ils vont rester. Ils vont entrer chez l'autre. Et avertir l'autre. Verset 3 de notre texte, Lot ne comprend pas la résistance des deux hommes quand ils disent non, nous ne voulons pas. Et il fait tout pour leur éviter un scandale. Parce qu'il sait que cette ville-là est dépravée, débauchée. Et si vous savez ça, vous allez éviter à vos enfants d'aller là, de fréquenter un tel, n'est-ce pas? En principe, hein? Même si l'enfant ne comprend pas, mais oui, c'est mon ami, il n'est pas méchant, et puis voilà. Et ce qui devait arriver, arriva. Les hommes étaient à peine entrés chez Lot que la situation s'est dégradée à l'extérieur. La pression est montée à une telle intensité que Lot ne savait plus sur quel pied danser. Et on n'a pas toujours la réponse dans ces situations-là. On n'est pas là pour juger l'autre. L'autre ne fait pas le poids. Et il n'a aucune solution, aucune autorité. Et verset 7, il essaye même de dire, mes frères, Ce sont tes frères. Il appelle les gens de Sodome mes frères. Ça veut dire qu'il fait corps avec. Ne faites pas le mal. Et regardez comment ils répondent. Tu es un étranger, dégage. Sinon, il va t'arriver du monde. Dégage. Nous voulons ces hommes-là. Et Lot trouve une solution, je dirais, un petit peu farfelue. Il propose ses filles encore vierges plutôt que d'offrir les hommes. Vous auriez fait ça, vous, parents? Allô? Mais il est sans réponse, il est sans solution. On n'est pas là pour le juger, mais il a essayé. Et vous savez, Lot qui est chez lui, il sort quand même et il essaie de dire, mais les gars, je suis quand même chez moi, j'ai des responsabilités ici, j'ai acquis mes richesses aussi, et puis je peux recevoir qui je veux. Calmez-vous. Sans l'intervention des anges, il était mort. Et sa famille aussi. Lot n'a rien compris. Comme souvent, nous ne comprenons pas quand Dieu nous avertit une fois, deux fois, trois fois. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu continue d'avertir et de parler au cœur de chacun de nous. Vrai ou faux? Les années passent. Et on fait comme si on n'entend pas. On est plus près du retour du Christ qu'hier ou avant-hier. Et notre mission est de transmettre à ceux qui nous entourent. Il y a un jugement à venir. Le cœur même de ce texte, de cette histoire, c'est au verset 14. Quand Lot dit à ces gens, ou futurs gens, parce qu'ils ne sont pas mariés en fait, quand on regarde bien. Sortez de là parce que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu va détruire la ville. Vous avez vu la réponse des gens? T'es sérieux là? Mais c'est ça, hein? Il le prie pour un plaisantin. Est-ce que les gens de notre entourage nous prennent pour des plaisantins quand nous annonçons l'évangile? Allô? Quand il nous arrive de dire que Dieu les aime malgré leurs péchés et que Dieu va détruire ce monde qui est réservé pour le feu, pour la ruine éternelle, est-ce qu'ils nous prennent pour des plaisantins alors que nous vivons avec eux et que nous n'avons jamais rien dit? Il dit, t'es comique toi. Pendant des années, tu as vécu avec nous, tu n'as jamais rien dit, et brusquement, Dieu sort de là. Et c'est là que je me dis, est-ce que Dieu lui-même ne nous prend pas aussi pour des plaisantins? Quand nous avons des compromis ici et là avec les gens de ce monde, et que brusquement, Dieu va changer, Dieu va faire, Dieu revient, Jésus revient. Allô? Est-ce que je suis sérieux sur toute la ligne ou bien je vais en dents de scie? Vous allez me dire, on n'a pas le choix. Si, on a toujours le choix. Soit de suivre le chemin droit en Christ, le seul chemin vivant et vrai, soit d'avoir tantôt des compromis, un pied dedans, un pied derrière. Et c'est ce que le prophète Élie reprochait. Il faut choisir et faire le bon choix. Le proverbe dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous connaissez l'histoire de la grenouille qu'on jette dans l'eau chaude depuis... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oh, c'est chaud. Non, vous ne connaissez pas l'histoire? On jette la grenouille dans l'eau chaude, elle s'échappe aussitôt. Mais si vous allumez le feu et puis la grenouille, elle prend petit à petit, elle est grillée, elle est cuite. Vous voulez faire l'expérience? Rentrez chez vous, faites ça. N'allez surtout pas faire ça. Mais on n'est pas là pour juger l'autre. L'autre est de la même nature que nous. Et il nous arrive de commettre les mêmes erreurs. Je suis tantôt dedans, tantôt dehors. Et mon cœur a tellement de privilèges d'avoir réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et puis tout ce que vous voulez, les réalités, qu'on passe beaucoup plus de temps là que lire la Bible, la parole de Dieu. Et ben ouais, je me surprends moi-même à glisser sur les réseaux sociaux ou bien à faire des choses. Je dis, oula, une demi-heure déjà de passé. On tombe facilement dans le piège. Patricia a lu, et sans se concerter, c'est le texte que j'ai choisi tout à l'heure pour la fin de message. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas en compagnie des mécheurs, des pécheurs, des méchants et des moqueurs. Heureux cet homme-là. Heureux plutôt celui qui trouve son plaisir dans la lecture de la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Et c'est là qu'il porte du fruit. Parce qu'il est enraciné en Christ. Ses racines plongent profondément dans cette bonne terre. Or, notre objectif est de porter du fruit. Chaque début d'année, nous voulons porter davantage de fruits que l'année passée. Non? Mais on se dit, mais c'est Dieu qui fait croître. Mais Dieu me donne le libre arbitre, je dirais, pour aller et faire. Les anges annoncent la destruction de la ville. Et l'intervention des anges pour arracher Lot. Mais c'est quelque chose, ça. Quand vous lisez chapitre 19, verset 14, verset 15, plus verset 16, verset 15 et 16, quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici pour ne pas succomber avec la ville fautive. Mais, il s'attardait. Lot s'attardait, alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et ils le firent sortir de la ville. Dieu nous dit, sortez du milieu de mon peuple. Bouge de là. Mais je traîne les pieds. Vous savez, à notre, peut-être on le fait chez vous, au travail, il y a des... comment on appelle ça, des exercices d'évacuation incendie. Comment ça s'appelle? On déclenche l'alarme et on veut évacuer tout le monde, mais vous avez toujours celui qui est là, en pantoufle. Il dit, oui, mais j'arrive. C'est un exercice, c'est pour du faux ou pour du vrai? On te dit, dégage. Mais on veut vérifier si c'est vrai. Jésus revient, c'est vrai ou pas? Il va détruire cette terre, c'est vrai ou pas? Les hommes peuvent croire ou ne pas croire. Mais si toi tu crois, qu'est-ce que tu fais là? Sinon, annoncer la bonne nouvelle de Jésus pour le salut de quiconque croit. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et la Bible dit qu'il est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru. Aujourd'hui, notre mission, c'est ça, en début 2026, nous avons cette mission. Patricia parlait de quatre saisons tout à l'heure. Nous avons quatre saisons devant nous. Nous avons les trimestres pour permettre aux hommes et aux femmes de notre entourage de nous prendre au sérieux et pas pour des plaisantins. Alors vivons sainement notre vie chrétienne. La fin du monde, comme on dit souvent, a été annoncée. Mais la Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Veillez. Veillez et priez. Bien-aimé, le succès sans la foi est vide. Je peux réussir dans la vie, mais pas réussir la vie. Lot semblait avoir réussi en Sodome et Gomorre, mais il avait perdu la vie. Et il aurait perdu la vie sans l'intervention des anges. Quand Dieu nous dit « sortez du milieu d'eux », c'est un ordre. Est-ce que Lot avait encore des choses à gagner dans Sodome? Certainement. Quelle place nous voulons dans la société? Quand Dieu nous dit en Jésus-Christ, notre royaume est là-haut dans le ciel, notre cité est là-haut dans le ciel, et que nous devons nous affectionner des choses d'en haut, chercher les choses d'en haut. L'intégrité aux yeux de Dieu, c'est de changer de direction, changer d'accepter, accepter de nouvelles attitudes. À ta place, là où tu es. Et quand on regarde bien souvent, on se dit, oui, je suis là, mais je ne fais rien. Je ne dis rien. Donc, tu n'es pas à ta place. Parce que si tu es là comme missionnaire, si tu es là comme ambassadeur, tu dois parler. Me suivez? En principe. Tu dois dire, Lot ne cherche pas à fuir Sodome et il n'avertit personne. Si bien qu'on répond pour un plaisantin, un comique. T'es pas sérieux là. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous devons trouver notre identité. Et c'est ça le problème de Lot. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas où il est. Est-ce que toi, en tant que chrétien, tu connais ton identité en Christ? Si tu n'as pas d'identité, tu n'es nulle part. Que faisons-nous du message que nous avons reçu, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle? Celui qui croira sera sauvé. Nous avons encore du temps. Je le dis, Christ peut revenir aujourd'hui ou demain. Mais prenons-nous le temps? C'est encore la question. Heureux est l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. Dieu nous a avertis et il continue de nous avertir pour que auprès de nos semblables, nous puissions annoncer l'imminence de son retour, l'imminence d'un jugement qui viendra sur les vivants et sur les morts. Ne faisons pas comme la femme de Lot. Qu'est-ce qu'elle avait à regarder en arrière? Vous êtes déjà arrivé de dire à quelqu'un, sauve qui peut, sauve-toi et ne regarde pas en arrière. La personne veut quand même regarder en arrière. Elle avait peut-être plein de richesses à Sodome ou bien elle voulait savoir ce qui se passait réellement. Le monde passe et sa convoitise aussi. Notre mission, être attentif aux appels de Dieu. Mais c'est aussi d'avertir nos semblables. J'aime à dire nos parents, amis et alliés. Les avertir de qui est Dieu et ce que Dieu a l'intention de faire. Nos enfants, même s'ils ont grandi à l'école du dimanche, s'ils n'ont pas fait la paix avec Christ, ils méritent d'entendre. Ils ont grandi, ils pensent connaître Christ. Mais ils n'ont jamais fait l'expérience de la repentance, de la nouvelle naissance. Et c'est là le point de départ d'une nouvelle vie avec Christ. 2006, peut-être un nouveau départ avec Christ. Qu'est-ce que j'ai dit? 2026, ouais, je ne suis pas encore là-dedans. Hein? Et nous arrive de patiner encore. Mais Dieu nous invite à reconsidérer le privilège que nous avons en tant que Christ, en tant que chrétien. nous avons la chance d'avoir été choisis. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Personne ne sait aujourd'hui encore. Mais Dieu nous a choisis. Pourquoi? Vous vous êtes déjà posé la question? Certainement, mais vous n'avez pas trouvé la réponse. Mais Dieu nous a choisis et Dieu nous invite à aller et à témoigner de sa grandeur. Lot, on ne va pas le juger, il était un homme comme nous, avec ses faiblesses. Mais nous devons être attentifs. Certainement, Dieu a parlé à Lot plus d'une fois. Et Dieu nous parle plus d'une fois, mais quand même, il nous arrive de basculer. Restons attachés, enracinés en Christ. Amen.